Lizzie présente Les secrets de Brocéliande. Une enquête du commissaire Dupin. De Jean-Luc Banalec. Lu par Pierre Lognet. À elle. À mon ami Elge. Undanier Bezanbev. Dan Deiz à Irv. Être vivant de nos jours est extrêmement dangereux. Proverbe breton. Le premier jour.
Le val sans retour. Nous y sommes, patron.
Les yeux du lieutenant Lebert étincelaient. Son visage brillait de joie. Georges Dupin et sa petite équipe du commissariat de police de Concarneau avaient fait bonne route. Il leur avait fallu à peine plus d'une heure pour arriver à destination. Le commissaire conduisait, désinvolte comme à son habitude en matière de respect de la limitation de vitesse. Sa Citroën, encore vaillante en dépit de son âge avancé, avait été flashée à deux reprises. Ses lieutenants, Lebert et Labat, étaient à l'arrière et Nolwenn, son indispensable assistante, sur le siège passager. Nolwenn avait eu l'idée grandiose de conclure une pénible obligation professionnelle du commissaire dans la forêt de Brocéliande en excursion touristique, ce qui n'était pas allé sans une certaine réticence de son chef. Mais Nolwenn était déterminé, et même là-bas, pinailleur par principe, avait trouvé l'idée excellente. Nolwenn avait fait remarquer que leur dernière sortie en commun remontait à plus de 2 ans. À l'époque, l'escapade les avait menés sur la côte nord-ouest de la Bretagne, et il le reconnaissait, Dupin avait apprécié. Son malaise aujourd'hui était plutôt dû au marché conclu avec son vieil ami Jean Audinot, un peu plus tôt dans l'année. Le policier parisien lui avait fourni d'importantes informations alors que son enquête était en panne et, en échange, Dupin avait promis à Audinot d'explorer certaines pistes dans une affaire non résolue. Impossible de se dérober. Question d'honneur. D'ailleurs, il aurait fait beaucoup pour Jean Audinot, même sans promesse. Non, son problème ne concernait pas son vieil ami, mais la police parisienne. Après sa suspension à la suite d'une insulte cinglante adressée au maire, malheureusement proférée en public, puis sa mutation en Bretagne, Dupin s'était juré qu'il n'aurait plus jamais affaire à elle. De plus, Audinot avait parlé, la veille au téléphone, d'une histoire complètement absurde, ce qui n'était pas fait pour le motiver.
Brocéliande.
Nolwenn avait tiré un petit livre d'un sac à provisions dont le contenu les nourrirait tous pendant plusieurs jours si d'aventure ils venaient à se perdre dans la nature sauvage.
« Brocéliande !»
reprit-elle.
« Que d'évocation dans ce simple mot, prononcé avec vénération par toute l'Europe médiévale. Le dernier royaume des fées. C'est ici qu'on prit forme certaines histoires merveilleuses parmi les plus belles ayant su toucher le cœur des hommes. »
Il s'agissait de la première visite de Dupin à Brocéliande, officiellement forêt de Pimpon, la plus grande forêt de Bretagne, et surtout la plus célèbre de France et d'Europe, cela allait de soi. Indubitablement l'épicentre breton du fantastique, l'endroit mythique par excellence, légende de toutes les légendes. Et compte tenu de la quantité de légendes qu'on trouvait en Bretagne, ce n'était pas peu dire. Dupin s'était préparé à voir Lebert et Nolwenn endosser le rôle de guide touristique avec plus de ferveur encore que de coutume, afin de faire bénéficier le groupe de leur science, et ce, si possible, sans retenue. Et il s'était juré de rester de marbre.
« Le mieux serait de nous garer près de l'église du Graal. C'est le meilleur point de départ »,
indiqua Nolwenn. Ici, tout renvoyait aux légendes. Sur les panneaux, on pouvait lire « Église du Graal »,« Lac de Lancelot »,« Perron de Merlin », »,« Tombeau du géant ». Lebert avait détaché sa ceinture et se penchait vers eux.
« 7700 hectares de forêt, des bois et de la lande parsemés d'étangs et de lacs. » C'est ce qui reste de la forêt majestueuse qui couvrait toute la Bretagne au temps des Gaulois. Elle a la forme d'un dragon endormi. On le distingue très bien du ciel. L'interprétation usuelle a fait de « brosse » forêt et de « liande » lande l'origine du nom, mais en réalité, celui-ci vient de la langue celtique et signifie « la forteresse de l'autre monde ». D'innombrables légendes celtes et bretonnes se déroulent ici. Des histoires extraordinaires. millénaires pour certaines. Mais c'est au roi Arthur et au chevalier de la Table Ronde que Brocéliande doit sa plus grande gloire. Comme vous le savez,
simple artifice rhétorique de Lebert censé capter l'attention,
Arthur revêt une importance capitale pour nous, Bretons. Plus que quiconque, il personnifie la résistance. Une de nos plus nobles vertus.
La grandiloquence de Lebert s'accentua encore.
Le cœur de notre âme. Une ténacité dans la défense des plus nobles idéaux. Égalité, fraternité, bonté.
Voilà les principes qui marquent le règne d'Arthur. Les Bretons ont cru fermement au retour d'Arthur. Nous lui sommes restés fidèles.
On n'est même pas sûr qu'Arthur ait existé, murmura là-bas, qui regardait par la vitre avec une apparente indifférence.
L'insinuation glissa sur Lebert sans le perturber une seconde.
La légende elle-même et son immense influence, elles, sont incontestables. Ajoutons que, outre la force et le pouvoir de l'aura d'Arthur, des découvertes de plus en plus nombreuses tendent à prouver que toutes ces histoires merveilleuses possèdent des fondements véridiques. De nombreux récits de la légende arthurienne se déroulent dans cette forêt,
ajouta Nolwenn.
Le minuscule village du Val sans retour, sur la bordure occidentale de la forêt, s'appelait Treorenteuk. À gauche de la route se dressaient quelques maisons éparses. À droite s'étendait un champ moissonné. Dupin aperçut l'église et le cimetière. Pas de doute, le lieu était enchanteur. Depuis qu'ils avaient quitté la nationale, un quart d'heure auparavant, ils traversaient des paysages comme Dupin les aimait. De douces collines, une nature présentant toutes les nuances de vert, des bosquets, des routes sinueuses et de jolis villages. C'étaient les terres intérieures bretonnes, l'Argoat, un mélange bien particulier de culture et de nature. Lebert repassa la tête entre les sièges avant.
Dans la première transcription française au milieu du XIIe siècle de l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Montmousse, la forêt décrite est clairement située en Bretagne. L'auteur des romans, qui raconte la geste d'Arthur, est Chrétien de Troyes, qui vécut entre 1135 et les années 1180. Il était originaire de Champagne.
Excellent. Voilà une bonne base pour stimuler l'imagination,
intervint là-bas.
Lebert ne se laissa pas dérouter. Chrétien de Troyes a repris les comptes rendus de l'Historia et de très anciens récits celtes transmis oralement des aventures d'Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Il en a tiré 5 romans, qui d'ailleurs se trouvent sur votre bureau depuis 15 jours, patron.
Le commissaire s'efforça de garder le regard fixé sur la route devant lui. Il avait bien vu les volumes épais, mais avait consciencieusement omis de s'y intéresser de plus près.
Quoi qu'il en soit, continua Lebert, les romans de Chrétien de Troyes ont été suivis d'autres récits, certains d'une grande valeur littéraire, ainsi que d'innombrables versions populaires. Il faut imaginer toute la littérature arthurienne comme un parterre de fleurs au printemps. Ça pousse dans tous les sens. La narration est intemporelle, la matière inépuisable, toujours renouvelée, éternelle.
Lebert s'exaltait.
Le mieux, c'est de vous garer ici, sur le bord,
indiqua Nolwenn.
J'ai posé un autre livre sur votre bureau, une édition du célèbre Lancelot Graal, qui compte parmi les adaptations majeures de la légende arthurienne. De très nombreux récits se situent ici, dans la forêt. Des histoires du jeune Arthur, de Merlin, le plus grand mage de tous les temps, de la fée Viviane, de Morgane, la demi-sœur d'Arthur, de Lancelot et Divin, le chevalier au lion. Il faut...
Nous y sommes.
Dupin s'arrêta à tout juste 20 mètres de l'église. Il sortit de voiture, suivi par l'équipe, et respira profondément. Ici aussi, à l'intérieur des terres, le temps était magnifique. La forêt se trouvait à peu près à mi-chemin entre les côtes nord et sud, entre la Manche et le golfe du Morbihan, entre Saint-Malo et Vannes, où les nuages aimaient à s'attrouper. On était à la mi-août, un moment particulier, où l'on perçoit une pointe de mélancolie car c'est alors que l'été bascule, que des nuées sombres traversent le ciel, accompagnées de pluie et de tempêtes, et que les premières feuilles sont arrachées des arbres. Tout l'inverse de ce que l'on vivait 15 jours auparavant, et l'on se frotte les yeux car soudain l'ambiance a changé. La lumière se fait plus douce, veloutée et dorée, même en plein midi. Bien sûr, la chaleur est toujours là, et cela peut durer jusqu'à fin octobre. Mais aujourd'hui, en cette journée exceptionnelle, l'automne semblait bien loin. Quand ils étaient partis de Concarneau peu après 13 heures, le thermomètre affichait 27 degrés, et le soleil brillait de tous ses feux dans un ciel limpide et d'un bleu profond.